franceinter.fr.
Les troubles anxieux chez les populations de migrants aujourd'hui, donc à la une de la science, avec une étude menée en France entre 1997 et 2001 et dévoilée seulement aujourd'hui et qui montre que les populations de migrants et leurs descendants sont plus sensibles aux troubles anxieux que le reste de la population. Quelles en sont les causes et surtout quelles sont les raisons de son maintien, parfois sur trois générations? Eh bien, pour tenter de comprendre, Axel, nous recevons aujourd'hui l'un des auteurs de ces travaux publiés dans le journal Psychiatric Research.
Oui, Mathieu, nous sommes avec Baptiste Pignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à Créteil, à l'hôpital Albert Chenevier. Et en plus de votre travail de praticien, vous menez des recherches sur les troubles psychotiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce terme de trouble anxieux? Quels sont les symptômes? C'est peut-être un peu vague pour
tous
ceux
qui
nous écoutent.
Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Ce qu'on a étudié, là, c'est le trouble anxieux généralisé, qui se manifeste donc par une anxiété majeure pour des soucis mineurs et avec associés des troubles du sommeil, de la fatigue, de la tension musculaire. On a aussi étudié la phobie sociale, qui se manifeste donc par une anxiété liée à tout ce qui est situation sociale, de collective, une anxiété très invalidante. On a étudié le trouble de stress post-traumatique, donc qui est donc des symptômes anxieux durables à la suite d'un traumatisme. Et enfin, le trouble panique, qui se caractérise par la répétition d'attaques de panique. Donc, c'est des crises d'angoisse majeures avec sensation de mort imminente. Voilà.
Et c'est des données qui datent de 2001.
Oui.
Est-ce que vous les considérez comme d'actualité?
Oui, tout à fait. Je pense que oui, tout à fait. Elles sont d'actualité, même si, en effet, il y en a de plus récentes à l'étranger. En France, c'est les seules qu'on avait à disponibilité. Et elles sont tout à fait d'actualité, oui.
Pourquoi vous sortez des travaux que maintenant, alors, puisque cette étude a été réalisée entre 97 et 2001,
oui.
Pourquoi avoir entendu si longtemps?
Alors, parce que j'ai eu accès récemment à la base de données. Et voilà, j'ai mené cette étude avec le docteur Ali Ahmad et le docteur Pierre Geoffroy, entre autres. Et qu'on a fait des analyses récemment.
Quelles sont donc les causes principales de cette anxiété, spécifiquement chez des personnes qui ont vécu l'exode? Alors, c'est comme ça qu'il faut les définir?
Oui, alors il y a dans l'étude, on a étudié trois types de migrants. Les migrants de première génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'étranger. Les migrants de deuxième génération, avec au moins un des deux parents nés à l'étranger et eux-mêmes nés en France. Et les migrants de troisième génération, c'est-à-dire au moins un des quatre grands-parents nés à l'étranger. Et les parents et le sujet nés en France. Et donc les causes, elles sont différentes pour chacune des trois populations. Les causes, elles sont regroupées dans différents types de facteurs de risque qu'on divise en facteurs prémigratoires qui précèdent la migration, qui sont donc le niveau socio-économique dans le pays d'origine, le vécu d'expériences traumatiques, de persécutions politiques, voilà. Donc ça, c'est pour les facteurs prémigratoires. Après, il y a les facteurs permigratoires, qui sont donc liés au processus de migration en lui-même, et qui sont donc essentiellement les expériences d'adversité et de traumatisme pendant ce processus de migration. Et enfin, les facteurs post-migratoires, qui sont...
L'accueil.
Voilà, c'est ça, qui sont dans le pays d'accueil.
Ce qui est frappant, c'est que, et ce qui est nouveau dans vos travaux, c'est le fait que ça perdure sur plusieurs générations. Vous arrivez à tirer des fils et à comprendre pourquoi?
Alors, il y a différentes hypothèses. Pour le moment, on ne sait pas exactement pourquoi ça continue. Les principales hypothèses sont les hypothèses sociales, notamment la défaite sociale, c'est-à-dire le fait de vivre avec un statut d'outsider dans une société donnée, et aussi les hypothèses liées au stress lié à l'acculturation. Donc l'acculturation, c'est le fait de devoir s'acclimater à un pays d'accueil, à une culture étrangère.
Et avec une nouvelle langue aussi.
Oui, tout à fait, notamment la langue, qui est un élément déterminant dans le risque de troubles psychiatriques en général, pas que de troubles anxieux. Voilà.
Bien sûr, on ne parle pas de toutes les personnes qui sont arrivées. Hein. Quelle proportion souffrent de ces troubles anxieux?
Alors là, pour les troubles anxieux, l'augmentation du risque est relativement importante. C'est-à-dire que quand on regroupe les quatre troubles anxieux qu'on a étudiés, il y a parmi les migrants, trois générations confondues, il y en a 25% qui en souffrent. Et en population générale, il y en a 20%.
Donc l'augmentation... Donc la différence est assez faible, en fait.
Voilà, tout à fait.
On va écouter un petit son, c'est un extrait de la chaîne de télévision France 24, c'était sur l'île de Samos, en Grèce, et en 2017, auprès des populations, cette fois réfugiées.
500 migrants ont été accueillis depuis l'ouverture du centre. Très peu arrivent à parler de leur santé mentale. Ce couple a accepté. Persécutés par les talibans, ils ont fui l'Afghanistan. Depuis 6 mois, ils sont dans un conteneur du camp de l'île.
Des fois, quand mes enfants veulent jouer, je n'en ai plus la force. Mon humeur est très instable et je ressens le besoin de quitter la pièce pour ne plus être avec eux.
Sa femme est suivie depuis 3 mois. Extrêmement anxieuse, elle s'est déjà évanouie 2 fois à cause du stress.
La situation est très dure. La plupart des nuits, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai peur que notre deuxième demande d'asile soit rejetée. Tout ce que je veux, c'est sortir de cet endroit. Dans la situation dans laquelle nous sommes, n'importe qui à notre place aurait des problèmes mentaux.
Alors, Baptiste Pignon, on le voit, le voyage, l'arrivée parfois sont des épisodes traumatiques et donc c'est des choses qui restent, qui marquent.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le fait de vivre des expériences traumatiques est un facteur de risque pour la plupart des troubles psychiatriques, notamment les troubles anxieux, mais également les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques. Donc oui, ce sont des facteurs déterminants.
Comment vous prenez en charge justement ces personnes qui arrivent en France ou qui sont là même depuis longtemps? Comment on peut les accompagner précisément, concrètement?
Alors, les soins psychiatriques, bon, déjà sont déjà on leur propose les soins standardisés qu'on propose à tout le monde. Après, la question, c'est l'adaptation culturelle qu'on peut faire pour certains patients parfois, quand ils ont une culture étrangère. Cette question culturelle, elle doit déjà être prise en compte dans le diagnostic, c'est-à-dire que certaines cultures influencent les symptômes, et les symptômes sont différents pour des cultures définies. Et après on est souvent par exemple amené à faire appel à des interprètes dans notre quotidien. Ça c'est quelque chose de déterminant, le fait de parler une langue étrangère, et donc on est obligé de faire appel à des interprètes qui ont la culture locale du migrant et qui peuvent nous expliquer que certains symptômes sont liés à la culture ou pas.
Ça, c'est essentiel dans l'échange entre le personnel de soins, justement, et les migrants, de vraiment prendre en compte l'aspect culturel. C'est absolument essentiel pour aller vers un soin aussi.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait des points de comparaison. Votre étude, elle concerne exclusivement la France.
Oui.
Et d'autres études ont été menées ailleurs dans le monde.
Oui.
Est-ce que les populations de migrants, globalement, dans le monde, ont le même taux d'anxiété dans la population?
Alors, les études qui ont été faites à travers le monde, les études migratoires sur les troubles anxieux, ont des résultats très différents. Et notamment aux États-Unis, il y a plein d'études qui montrent que pour les migrants de première et de seconde génération, le risque de troubles anxieux est plus faible qu'en population générale.
Ah bon?
Oui.
Et comment on l'explique? Il y a une raison particulière?
Alors, en fait, les migrants sont, dans leur population d'origine, souvent en meilleure santé. Et ce sont des personnes dynamiques qui choisissent de migrer, qui obtiennent les moyens pour le faire. Mmh. Et donc, ils arrivent, ils sont en meilleure santé.
C'est les conditions du voyage et de l'arrivée et de l'intégration qui jouent beaucoup alors pour la suite.
Oui, tout à fait.
Voilà, cette étude vient de paraître donc dans cette revue que vous pouvez nous redonner. Psychiatric Research, hein, c'est ça?
Journal of Psychiatry.
Voilà, avec vos confrères. Merci beaucoup, Baptiste Pignon, d'être venu nous en parler aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis Axel, on se retrouvera demain.
Et oui, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un lézard du Jurassique inférieur qui avait 4 yeux. Des chercheurs du muséum de Yale dans le Connecticut rapportent dans la revue Current Biology la découverte donc d'un fossile de lézard muni d'un 4e œil. Oui, vous avez bien entendu, car l'existence d'un 3e œil chez les poissons et les grenouilles du Jurassique est déjà fortement documentée. Cette fois-ci, la découverte d'un 4e œil permet de confirmer que ces éléments ne sont pas de simples yeux comme les autres et comme nous l'entendons, sorte de globe photosensible. Ils joueraient un rôle dans l'orientation et l'horloge biologique de ces lézards et leur aurait permis en tous les cas de développer d'étonnantes capacités. L'étoile unique la plus éloignée de notre Terre jamais détectée, elle se trouve à 9 milliards d'années-lumière, c'est ce que rapporte une étude japonaise dans le journal Nature Astronomy. Cette belle étoile bleue, baptisée Icarus, a pu être repérée grâce au phénomène de l'antigravitationnel. La lumière d'Icarus nous est parvenue amplifiée 2000 fois par la masse d'autres galaxies riches en milliards d'étoiles situées entre elles et nous. L'observation de l'étoile lointaine est donc une chance et un nouveau record pour l'astronomie. Et puis pour terminer, des images impressionnantes qui nous rappellent que l'Afrique est en train de se couper en deux, filmées par drone au Kenya la semaine dernière. Ces images nous montrent l'apparition d'une large faille sur l'autoroute reliant Nairobi à Kisumu, plus à l'ouest. Une cassure de plusieurs dizaines de mètres de long, coupant en deux non seulement la route mais également le paysage alentour. Cette région est en plein sur ce qu'on appelle la vallée du Rift africain, zone de plus de 6000 km de long, très active, où les plaques africaines et somaliennes se repoussent l'une l'autre. À terme, c'est-à-dire dans plusieurs centaines de millions d'années, la Somalie et le Kenya seront séparés du reste de l'Afrique par un fleuve qui deviendra certainement une mer. Les images de ce phénomène sont à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.